Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Johan, qui a grandi dans un foyer brisé, seul avec sa mère bipolaire qui refuse les soins et est dépendante affectivement d'hommes qui la maltraitent.
Bonjour Lucille, je m'appelle Johan, j'ai 22 ans et j'ai grandi avec une mère atteinte de troubles bipolaires. Généralement, les personnes savent ce qu'est la bipolarité, c'est-à-dire que c'est une maladie qui fait vaciller entre des périodes d'euphorie et de dépression. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que la bipolarité affecte tous les proches de la personne malade. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans, et ils se sont partagés les enfants comme nous pouvons partager des meubles. Mon frère est resté avec mon père et moi je suis parti avec ma mère. Avoir une mère bipolaire, c'est très souvent devoir faire une croix sur la présence maternelle. C'est devoir esquiver les coups, faire preuve de beaucoup d'empathie, encaisser les insultes et jugements gratuits, se confronter à la mort à chaque tentative de suicide, devoir grandir vite, trop vite, pour devenir l'adulte responsable de la maison. Ma mère a constamment besoin de la présence d'un homme. Sa dépendance à elle, c'est la dépendance affective. Mais dans son état, elle se met toujours en relation avec des hommes extrêmement toxiques. Pervers narcissiques, abus de pouvoir, manipulation, violence psychologique ou physique. Ils ont beau être les pires raclures, ils finissent eux aussi par la laisser. À mes 13 ans, ma mère me met dehors, plus ou moins sous la pression de son nouveau mari. Je pars donc vivre chez mon père. Mais j'arrive comme un intrus dans l'univers que mon père et mon frère avaient eu le temps de construire durant les 4 dernières années, sans moi. Je peine à trouver ma place. J'ai toujours été assimilé à ma mère, parce que je suis un hypersensible, parce que j'ai dû faire des thérapies, parce qu'elle s'est enfermée sur moi dès ma naissance. Également parce que je savais qu'elle n'avait que moi et que je ne pouvais la laisser lorsqu'elle en avait besoin. J'ai accepté son état, avec lequel je vivais. J'ai donc porté les étiquettes de fou, de bipolaire, de fragile. Mais grâce au temps et aux thérapies, j'ai pu prendre confiance en moi et m'affirmer tel que je suis vraiment. Mais ma mère a tout de même toujours été plus ou moins sous ma responsabilité. Lorsqu'il fallait lui rendre visite à l'hôpital, lui apporter des affaires, appeler les pompiers, l'écouter, surveiller la prise de médicaments, la raisonner. Mon frère la méprise et ne veut rien avoir avec elle. Longtemps, il affirmait que mon père était sa responsabilité et que notre mère, ma responsabilité. Il a développé ses propres barrières pour se protéger. Conséquence du souvenir de ses propres souffrances. Ma mère n'a pas d'amis. Elle a des sœurs et frères, mais ils sont aussi rejetés par ma mère. Elle ne prend jamais son traitement et donc très rarement elle-même. Elle n'est pas non plus régulière dans les thérapies. Cette année, j'étais parti vivre à Barcelone pour réaliser mes projets personnels, prendre soin de moi, pour une fois. Perdre son fils pilier a été un choc pour elle. Elle s'est empressée de trouver un homme pour combler ce vide. Et récemment, j'ai reçu un appel en visio pendant le confinement. Son visage était en sang, après avoir dû supporter les coups de cet homme. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Mais mon voyage touche bientôt à sa fin. Cela va faire un an que je n'ai pas revu ma mère. J'ai appris à vivre sans cet environnement toxique. Je voudrais pouvoir retourner en France avec la force nécessaire pour adopter les bonnes attitudes auprès de mes proches et de ma mère pour me préserver, mais ne pas la laisser à continuer de se détruire. Merci Lucille.
Cher Johan, j'ai grandi dans une famille que beaucoup qualifieraient de normale, mais je ne connais que trop le sentiment d'être un enfant surresponsabilisé, d'être trop sensible à la souffrance des adultes et de développer des barrières, de ne pouvoir partager avec personne son mal-être ou ses problèmes, parce qu'on n'est jamais totalement sûr qu'ils seront réellement écoutés, de se sentir toujours différent des autres enfants, et un peu envieux aussi, de ceux qui peuvent grandir dans l'insouciance. J'ai une famille que beaucoup qualifieraient de normale, mais je n'ai pas grandi dans l'insouciance. Et au fur et à mesure des années, je me suis convaincue que si les autres avaient le droit à cette insouciance, c'était parce qu'ils le méritaient. Et que moi, avec ma vision du monde, mes fardeaux à porter seuls et mes mauvais souvenirs, je devais probablement avoir commis une erreur quelque part, ou alors c'était une épreuve d'une entité cosmique supérieure. Bref, pendant longtemps dans ma tête, il y avait moi et il y avait les autres. Les autres avaient l'air heureux, et moi je ressassais la violence que je connaissais du monde, les cris, la peur, la solitude. Comment se remettre de ça? Je crois fort à la résilience, qui est notre capacité à tous et à toutes, à se construire non pas malgré nos traumatismes, mais avec eux. De grandir autour comme la branche d'un arbre ferait un angle, sans se fragiliser, pour éviter un obstacle. Je crois aussi qu'on peut rencontrer sur sa route des personnes qui nous remettent sur un chemin légèrement différent, ou qui changent discrètement notre vision du monde. J'ai longtemps été convaincue d'avoir toutes les responsabilités, ça m'arrive encore parfois de le penser pour être tout à fait honnête. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris à m'exprimer, à partager mes doutes et mes malaises, à raconter mes traumatismes. J'ai rencontré des gens qui m'ont cru. J'ai pu travailler sur certains souvenirs avec une thérapie par l'hypnose, qu'on appelle EMDR, et qui traite spécifiquement et avec beaucoup de succès les traumatismes. J'ai appris à lâcher prise sur ma famille et à m'éloigner de ceux qui me voulaient du mal. Je ne cherche plus la justice ou à faire entendre ma vérité, parce qu'ils ne l'entendront jamais. J'ai accepté ça. Mais j'ai 35 ans et je travaille encore sur moi. J'ai 3 enfants et j'ai peur comme jamais qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je sais que ce n'est pas le cas, mais j'y pense souvent. Oui, on guérit, Johan, mais ça prend du temps. Vous allez avoir besoin de courage pour revenir en France et pour affronter ces visages, pour affronter ces gens pour qui vous n'existez pas vraiment et pour qui vous n'existerez probablement jamais comme vous voudriez exister. Vous allez devoir repartir de zéro et chercher d'autres visages, une autre famille. Parfois, le respect et l'amour, ils sont juste ailleurs. Vous avez déjà passé un an loin de votre mère et de ce qu'elle représente. En ça, vous êtes courageux. N'oubliez jamais que votre hypersensibilité est aussi une force, que cette histoire qui est la vôtre n'est pas une faiblesse. Ça peut vous faire mal, ça peut vous faire pleurer, mais ces souvenirs sont aussi et surtout la preuve que vous êtes plus fort qu'eux, que vous êtes encore là, et que chaque jour qui passe est une victoire de survivant. Vous avez survécu, et il n'en faudra pas beaucoup plus pour que vous transcendiez votre histoire, que vous commenciez en fait à écrire la vôtre, en refusant d'être un figurant dans l'histoire de ces gens qui ne vous méritent pas. Pour parler de parents dysfonctionnels, j'ai téléphoné à Ariane Calvo, psychothérapeute et autrice de best-sellers, dont le décodeur des violences psychologiques. Elle signe la préface du livre « Se construire avec des parents immatures » du docteur Lindsay Gibson, à paraître le 9 février 2021 aux éditions Le Duc. Qu'est-ce qu'on appelle des parents immatures ou dysfonctionnels ?
Les parents immatures, c'est une catégorie spécifique de parents dysfonctionnels. Donc les parents dysfonctionnels, c'est ceux qui n'ont pas les ressources pour avoir la disponibilité émotionnelle, disons, de pouvoir protéger leurs enfants. Et dans cette catégorie de parents dysfonctionnels, les parents immatures, c'est des parents qui n'ont pas pu se construire dans une forme de solidité intérieure qui leur permettrait de encaisser, gérer, traiter, accepter leurs propres émotions et qui du coup les font vivre de façon débordante à leurs enfants qui, eux, ne peuvent pas se permettre d'exprimer et grandir avec les leurs.
Les parents ne sont-ils pas tous un peu dysfonctionnels ? Dans le sens où ils trimballent aussi leur propre bagage émotionnel ?
C'est très vrai. On est tous dysfonctionnels. Moi, j'aime bien l'expression de Donald Winnicott, qui est un psychiatre britannique, qui disait les parents suffisamment bons. C'est assez précis parce qu'effectivement, on ne sera jamais des parents parfaits. Et c'est d'ailleurs une des grandes angoisses de toutes les personnes qui deviennent parents. Mais tout de même, le fait d'être immature émotionnellement, ça imprime quand même une relation où c'est l'enfant qui devient adulte et qui devient le parent de son propre parent. Et c'est exactement ça qui est problématique dans sa construction. C'est-à-dire que le parent demande inconsciemment à son enfant de le prendre en charge et cette charge-là est beaucoup trop lourde et beaucoup trop anxiogène pour l'enfant qui la vit.
Comment se reconstruit-on après avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle ?
Alors, le problème des familles dysfonctionnelles, et en particulier celles où il y a des parents immatures, c'est que comme rien peut faire exploser les parents immatures parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, il s'effondre, ses parents, et ça angoisse beaucoup les enfants, en particulier dans la toute petite enfance, parce que on a quand même besoin que nos parents tiennent à minima la route pour pouvoir s'occuper de nous et puis pour qu'on puisse survivre. Donc en fait, très rapidement, le bébé de ces parents-là ou d'un de ces parents-là a une sensation de danger de mort et un besoin de survie qui l'amène à mûrir trop vite, à devenir responsable trop rapidement. C'est tous ces enfants qui sont beaucoup trop sages, vous voyez, ou au contraire, qui s'agitent dans tous les sens et qui deviennent complètement hyperactifs, justement parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'angoisse que leur procure le fait d'être complètement responsables de leur sort, alors qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils sont à un âge où ils sont beaucoup trop petits pour savoir fonctionner comme des adultes. Donc, comment on se reconstruit ? Ben, c'est un long chemin, en particulier d'acceptation de ses émotions, et en particulier à l'âge adulte, parce qu'en fait, on met beaucoup de temps, vous l'avez sans doute expérimenté, moi aussi, dans la vie de chacun, c'est très long de remettre en question le fonctionnement de ses parents. Il y a une loyauté inscrite très profondément en nous qui fait que le temps de prise de conscience des dysfonctionnements et de tout ce qui nous a causé du tort, en fait, que ce soit émotionnellement, physiquement, même professionnellement ou académiquement dans nos études, c'est extrêmement long et délicat comme prise de conscience. On ne veut pas les blesser plus que ce qu'ils sont déjà, parce qu'évidemment, on sait très bien que quand les parents sont très dysfonctionnels ou très immatures, c'est parce que les blessures du passé sont immenses. Donc, on ne s'autorise pas à en rajouter une couche en leur reprochant des choses. Et même le temps que le reproche arrive à la conscience, même si on ne l'exprimait pas verbalement aux parents, c'est un long chemin d'autorisation personnelle, en fait. Donc déjà cette prise de conscience. Et puis ensuite, une des choses, je trouve, qui, dans ma patientèle, ça m'interpelle beaucoup, c'est qu'une des choses qui nous permettent de nous reconstruire, c'est qu'on ressent le besoin d'avoir accès au bonheur. À un moment de notre vie, on se dit, à un moment de notre vie d'adulte, on finit par se dire, mais j'ai le droit d'être heureux, en fait. J'ai porté tout le monde toute ma vie, parce que alors, très souvent, les enfants de parents immatures ont aussi, quand il y a des fratries, porté leurs frères et sœurs. J'ai porté tout le monde toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de me porter moi et de jouer dans mon propre camp. Or, il y a un phénomène cérébral intéressant du point de vue des émotions que je vais essayer d'expliquer simplement. C'est que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, empruntent le même canal cérébral dans le système nerveux. Ce qui veut dire que si on se coupe de nos émotions pour ne pas ressentir les émotions négatives, on se coupe aussi du canal qui nous permet d'accéder aux émotions positives. Ce qui veut dire, à l'inverse, que si on veut pouvoir ressentir de fortes émotions positives, on va être obligé d'ouvrir le canal et de ressentir aussi nos émotions négatives. Donc, ça peut se faire que dans un travail d'accompagnement, d'expression, de prise de conscience et d'autorisation de toutes nos émotions. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir accéder à son vrai soi, là où notre personnalité, elle a été bridée, modifiée et même parfois complètement oubliée pour protéger le parent, pour qu'il puisse continuer à fonctionner le plus possible.
Est-ce qu'il est possible seulement de pleinement se reconstruire ?
Oui, sincèrement, oui. D'abord parce que le fonctionnement que je suis en train de vous décrire suppose une bonne dose de résilience. C'est-à-dire que quand on en est déjà là, à cette prise de conscience, à cette verbalisation, à tout ça, on a pris la décision ferme de se reconstruire et d'avoir accès au bonheur par soi-même, pour soi-même, et c'est ça qui est essentiel. Quand on n'en est pas à ce chemin-là, c'est très souvent qu'on est resté dans une posture de victime qui est délicate parce qu'elle est réelle. On a réellement été victime et blessé profondément par ces parents-là. Mais elle ne suffit pas à la reconstruction. On a besoin d'être validé dans nos blessures, mais le cran d'après, il n'y a que nous qui pouvons le décider, celui de la reconstruction. Quand il est décidé et quand on s'en donne les moyens, il est possible de se reconstruire totalement.
Quelles sont les chances de pouvoir construire à son tour une famille saine quand on a grandi dans une famille dysfonctionnelle ?
Alors, c'est intéressant cette question parce que c'est vraiment la question universelle que se posent absolument tous les enfants devenus adultes qui ont souffert de, parents dysfonctionnels, parce qu'évidemment, ayant énormément souffert enfant, on n'a pas du tout, du tout, du tout envie d'imposer des blessures aussi grandes à nos propres enfants. Sinon, on n'en ferait pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants devenus adultes de parents dysfonctionnels qui n'ont pas d'enfants pour cette raison-là, hein, par peur de reproduire inévitablement des choses. Alors, ce qui est intéressant sur l'éducation, notre façon d'être un éducateur, c'est que l'apprentissage de cette fonction-là ne peut se faire que par modélisation, c'est-à-dire par observation d'un comportement et reproduction de celui-ci. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui nous agace beaucoup, les humains, là, c'est que même quand on ne veut pas reproduire ce qu'on a vécu, si on ne fait pas le travail d'observer d'autres fonctionnements, on ne peut que reproduire ce que l'on a vécu. Ce qui veut dire aussi que si on souhaite faire autrement, il faut observer autre chose. Il ne suffit pas de décider que nous, on fera différemment. On a besoin d'observer une marraine, une tante, une grand-mère qui a fonctionné différemment, une copine, ou un copain qui est un père différent de celui qu'on a eu, maman de la crèche qui nous semble tout à fait inspirante, une éducatrice de jeunes enfants, une maîtresse, tout ce qui pourra nous sembler être du ressort de l'éducation que nous, on aimerait donner. Et en observant attentivement ces fonctionnements-là, on va pouvoir commencer à en reproduire certains, voire la totalité, et sortir de ce qu'on a appris par modélisation. Et c'est vraiment la seule façon de faire. Donc, c'est très, très, très important de le retenir. On peut lire des tonnes de livres d'éducation positive, passer des heures en psychothérapie. Le vrai changement, il ne sera possible que quand on aura eu accès à de nouveaux comportements qui nous semblent plus fonctionnels. Et c'est super important parce que sinon, on est voué à l'échec, en fait.
Et enfin, quelles sont les ressources culturelles que vous conseilleriez à quelqu'un qui se pose des questions sur le sujet ?
Alors, évidemment, le livre de Lindsay Gibson, « Se construire avec des parents immatures », dont j'ai fait la préface, hein, et c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'experte absolue de ce type d'éducation et de ses conséquences et de comment se reconstruire à l'âge adulte. Il y a une psychopédagogue française que j'aime énormément, qui travaille au Maroc. Elle s'appelle Laurence Dudek. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Parents bienveillants, enfants éveillés », qui sont 10 clés d'éducation, qui sont absolument extraordinaires. Pour moi, c'est vraiment le must l'explication éducative des ressorts psychologiques des enfants, des parents, et de comment accompagner vraiment de la façon la plus saine, cadrante de façon bienveillante, quoi, dans le respect absolu de la personne de l'enfant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre livre aussi qualitatif ces 10 dernières années. Et puis, vous m'aviez posé la question, du coup, j'ai cherché un peu dans les romans qui m'ont marqué de ce côté-là. Et pour moi, le meilleur, c'est vraiment En attendant Bojangles d'Olivier Boudot, qui raconte le récit d'un petit garçon avec une maman complètement dysfonctionnelle, extrêmement attachante, et où on voit justement quels sont les ressorts d'empathie, d'attachement et d'amour des enfants pour ses parents qui délirent à plein tube, mais auxquels qu'on a envie de sauver pour pouvoir continuer à les aimer, en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très, très intéressant d'observer comment ça fonctionne. Et puis, alors, moi, je suis une grande famille de séries télévisées, et du coup, je vous en ai trouvé deux qui racontent vraiment ce que c'est que de se reconstruire à l'âge adulte avec des parents dysfonctionnels. Évidemment, Jessica Jones, qui est l'exemple type de la petite fille qui a grandi avec un parent immature et qui devient un adulte, enfant, adulte. On ne sait plus trop quelle est l'adolescente et quel est l'adulte là-dedans. Ça fonctionne à peu près bien, mais on sent que c'est fragilou et qu'elle essaye de structurer sa pensée, sa vie vaillamment. C'est une très, très belle personne, un très beau personnage. Je suis absolument certaine qu'il y a un psy dans les scénaristes parce que c'est impossible autrement, le traitement du trauma, de la manipulation, des enjeux de vie adulte et de responsabilité sont traités avec tellement de finesse que ça peut être que un psychothérapeute dans la salle. Et puis, une série que j'aime énormément, elle s'appelle « This is Us ». Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est en 4 saisons pour le moment, une série américaine qui est assez extraordinaire. Ça raconte une histoire de famille avec des triplés, deux blancs et un noir. Je vous spoile pas, hein, il faut regarder pour savoir pourquoi ils n'ont pas tous la même couleur. Et ça raconte pas du tout l'histoire d'une famille parfaite. Ça s'engueule, il y a des conflits, des loupés, des incompréhensions, tout ça. Mais par contre, dans la finesse de communication et l'intention vraiment de s'aimer et de s'épauler et de se soutenir jusqu'au bout, même dans les pires épreuves de vie, il y a quelque chose de réellement inspirant et à retenir justement de ce modèle positif dont je vous parlais, de voir fonctionner des gens qui ont vraiment l'intention d'aimer leurs enfants pour ce qu'ils sont et de les laisser grandir tels qu'ils sont.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le film « Gueule d'ange » de Vanessa Filio avec Marion Cotillard. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui grandit seule avec sa mère, immature et alcoolique. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. C'était le dernier podcast C'est compliqué de l'année. On fait une petite pause pour les fêtes et on revient avec un nouvel épisode le 14 janvier prochain. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.